notre culture humaine, dans le soin de la terre et dans le soin les uns des autres, avec des besoins limités plutôt que le toujours plus, que je pense que beaucoup d'entre vous, vous faites déjà des choses comme ça.
Il faut des exemples.
Ouais. Alors, des exemples. Bon, je lis ma liste comme ça, vous avez une flopée d'exemples qui va complètement vous allonger. Et comme ça, après, vous pouvez me dire ce que vous faites, et ce qui vous inspire, et ce qui... Voilà, comment vous pouvez l'appliquer. Parce que c'est ça qui est intéressant après la partie un peu plus abstraite. Donc, on peut dire le domaine de la gestion du territoire. Donc là, il y a le jardinage bio-intensif. Il y a ce qu'on appelle les forêts comestibles, qui est vraiment d'imiter le système de forêt locale pour avoir une forêt qui produit surtout des choses qu'on peut manger. Il y a la sauvegarde des graines locales, de développer des variétés de graines ou de préserver des variétés de graines anciennes. Il y a l'agriculture biologique en grande échelle avec label ou pas, voilà. Il y a la biodynamie, évidemment. Il y a la paysannerie traditionnelle de polyculture, élevage, un peu de forêt, la paysannerie, quoi. Après, il y a les systèmes de récupération des eaux de ruissellement pour prévenir l'érosion, donc gérer le territoire par rapport à ces problèmes-là. Il y a les pâturages en gestion holistique. Il y a utiliser les séquences naturelles des plantes. Il y a l'agroforesterie, l'aquaculture intégrée, donc des poissons que l'on ne nourrit pas avec des pellets ou des trucs comme ça, mais des poissons qui vivent en écosystème. Et puis les récoltes de plantes sauvages, le glanage, la chasse et la pêche respectueux des systèmes locaux et de nombre d'individus dans chaque espèce. Donc ça, c'est une partie de ce qu'on peut faire en gestion de territoire, qui relève quelque part de la permaculture, parce qu'on regarde qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui pourrait être là, et comment les humains, on peut s'inscrire dans tout ça en améliorant les choses. Ça vous parle ? Ça aide à avoir un peu des idées de ce que ça peut être.
Il faudrait que ça soit encore plus concret dans un exemple, même si on sait qu'il est bateau et qu'il ne peut pas s'appliquer
d'accord.
Ici forcément.
D'accord. 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 Bon. Dites-moi votre situation. Vous habitez où ? Vous faites prendre votre exemple. Vous avez une
design
concret.
Vous avez accès à un petit bout de terre ou pas du tout ?
Pas du tout.
Vous avez envie de jardiner ou pas du tout envie de jardiner ?
Pas du tout.
On veut dire pas du tout. D'accord ? Pas du tout.
Non. Donc c'est pas pour moi, c'est pour mes amis.
C'est un exemple de permaculture. Vous, vous n'aimez pas jardiner, mais vos amis, si.
Oui, heureusement, je l'ai choisi.
Toujours un intérêt. Et donc, vous faites quelque chose que vos amis apprécient.
Ah oui,
Donc,
on est toujours prêts.
T'as vu, hein?
Oui, non, bon. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que c'est qui fait le ton?
Ah, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est dans le même contexte.
Bon, quelqu'un d'autre?
Ouais.
Non, mais. Pour dire, oui, si on est par exemple, donc je vais prendre un exemple un peu bateau qui correspond peut-être à rien. On a.
Petit bateau.
Petit bateau. On me donne soudain, je prends un exemple rêve, hein. On me donne soudain un terrain de 1000 m² à côté du village et il n'y a pas d'eau. Mais bon, il y a 1000 m² de quand même terre relativement ok pour Bon, qu'est-ce que je vais y faire? Bon, je vais essayer de cultiver quelque chose parce que j'aime bien cultiver. Et je vais essayer de faire des choses que j'aimerais avoir super frais ou qui sont super chères sur le marché pour d'un côté dépenser un peu moins et du coup pouvoir acheter de meilleure qualité. Et de l'autre côté, avoir super frais les choses que j'aime avoir frais. Par exemple, j'adore les petits navets du printemps, qui sont les tout premiers là, j'adore ça. Donc je ferai ça, je ferai des carottes, je ferai beaucoup de laitues, différentes formes de mâches, de salades, tout ça. Et puis je ferai tout ça sur but. Parce qu'il y a peu de surface et il n'y a probablement pas beaucoup de profondeur de terre, donc je ferai ça à cet endroit-là, sous 20 cm de paillage. Ça serait ma manière de gérer permaculturellement ce lieu. Parce que du coup, j'essaierai de faire sans apport d'eau ou avec que les eaux grises des deux maisons à côté, que je me débrouillerai en discutant avec les gens, en leur rendant les salades. Voilà. Donc.
Oui. Disons que je suis un peu dans le cas que vous venez de décrire, je crois que je l'ai fait. Et puis, j'ai des ennuis actuellement,
oui.
Parce que j'ai des chevreuils qui viennent manger toutes les salades qui me restent. Il ne me reste pas beaucoup, mais il m'en reste. Ouais. Et j'essaie de les cultiver d'une façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. Et puis, malheureusement, il y a trop de chevreuils dans le coin. Et ils vont tout manger, des poireaux, des carottes, des salades.
Deux solutions. Solution numéro 1, les chevreuils mangent vos salades, vous mangez les chevreuils. Solution numéro 2, clôturer. Les clôtures, les humains en ont toujours essayé de mettre parce que bon, on est quand même en compétition avec certaines autres espèces par rapport à une partie de ce qu'on cultive. Donc, clôturer, c'est pas un mal, hein.
Oui, mais quelle hauteur la clôture, parce que les chevreuils, ils sont heureux.
Oui.
Alors, il y a aussi
des grattes-culs contre la clôture et puis ils viendront pas.
Alors, quand vous voulez dire quelque chose, levez la main bien haut et puis moi je vous désigne de la main et des yeux, parce que sinon ça va faire très vite. Voilà, Joël.
Donc. Deux solutions, soit on ouvre le portefeuille, on va acheter des piquets autoclavés pour pas qu'ils pourrissent avec de l'arsenic dedans. On va acheter du grillage de 2 mètres de haut et du barbelé pour mettre. Et tout ça, ça coûte très cher, d'accord ? C'est une solution rapide. Solution plus lente, qui est moins coûteuse, qui coûte que de l'huile de coude, c'est d'installer des haies avec des arbres dont on entrecroise les branches de manière à ce que même un chevreuil ne puisse plus passer. Avoir une haie suffisamment épaisse avec des épines et les chevreuils ne passent plus.
Ce qui va contourner
la parcelle et passer ailleurs.
Ils volent chez l'eau.
Donc, là,
c'est un travail de longue haleine. Ça peut durer 10 ans, mais bon. Voilà.
Donc là, je parle d'arbres, mais on peut aussi tout à fait commencer par les ronces, qui en général poussent très bien. Et qui en même temps conditionne le sol.
Oui, mais les ronces, on peut aussi.
Parlez plus haut.
On peut aussi ramasser, arracher les ronces quelque part, les couper, et puis les mettre en tas devant.
Voilà.
C'est déjà une solution de départ.
C'est du barbelé naturel.
Oui. Exactement. Biodégradable.
Et pour les lapins, qu'est-ce
que vous
préférez? Et pour les lapins.
Chien.
Quand les lapins viennent manger tout ce qu'on a dans le jardin, qu'est-ce que vous préconisez de...
Moi, je suis pour des jardins petits et clôturés. Pour moi, les voilà. Civet, c'est super pour les lapins. Collier aussi, ouais, voilà. Donc, de mon point de vue, si on a un jardin petit, il vaut mieux bien le clôturer d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça n'a pas besoin d'être une clôture très chère, etc. etc. mais voilà. C'est pas évident. Mais personne n'a dit que ça devait être évident de cultiver sa nourriture. Je pense que les humains ont toujours un peu...
Si ou alors, il faut faire des jardins sur le toit de la maison.
Les oiseaux.
Donc.
DJ, vous faire fi de moi.
Ça, c'était parti jardin local. Ah oui, pardon.
Mais en fait, la permaculture, est-ce que c'est pas carrément le retour aux sources ?
La permaculture n'est-ce pas justement le retour aux sources ?
On n'essaie rien du tout. Est-ce que c'est pas carrément le retour aux sources comme. Pour travailler nos ancêtres avant l'ère industrielle, quoi.
Donc, il y a deux réponses à ça, enfin pour ma part. D'un côté, oui, parce que tous les peuples qui ont vécu, on va dire, jusqu'à le début de l'ère industrielle, jusqu'au début de l'exploitation du pétrole, on va dire surtout, ils ont tous vécu relativement en lien fort avec leur environnement. Mais ils ont aussi, depuis le début de l'agriculture, retourné le sol, qui n'est pas forcément très bon et qui participe quand même beaucoup à l'érosion et à la perte du sol fertile. Donc il y a, même parmi les méthodes traditionnelles, enfin pré-industrielles, il y a des méthodes qui ne sont pas forcément bonnes et pas forcément adaptées aux écosystèmes locaux. Donc, je pense que oui, d'un côté, c'est de revenir à ce qu'il y avait avant le pétrole, mais c'est aussi de regarder vers des solutions qui sont encore innovateurs et qui participent à reconstruire et à rendre plus que ce qu'on en a pris. Parce que là, ça fait 150 ans qu'on ne fait que détruire, et là, il va falloir quand même réparer les choses, quoi. Donc, c'est... Voilà. Ça rebond. Ouais. Et là, il y avait une question avant ?
Oui, moi, ça me fait rebondir un peu sur le retour aux sources, etc. Je pense que quand on écoute un petit peu votre intro et tout, on a très bien compris que c'est du bon sens, quoi. Enfin, voilà. C'est un discours que beaucoup de néo-ruraux et d'urbains aujourd'hui entendent, écoutent, parce que ça devient vraiment la mode de revenir à la nature, de savoir regarder le soleil et de savoir regarder que... Ah oui, il y a quatre saisons et que... Bon, voilà. Du coup, ça me pose la question, pourquoi est-ce qu'on a mis... Enfin, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, moi un jour on m'a dit que je faisais la permaculture. Bon, voilà. Donc on a créé un mot, on a créé des principes, on a créé une éthique, on a créé des bouquins, on a créé des formations, et on a créé toute une économie autour de ce mot-là, quoi. Enfin, voilà, ça me pose la question. permaculture, agriculture paysanne... Agriculture biologique, on en fait un logo. Agriculture raisonnée, parce qu'il y en a d'autres, du coup, qui veulent aussi leur logo. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de créer une économie encore avec... Enfin, de jouer là-dessus, quoi. De jouer sur...
Est-ce que, si je vous comprends bien, votre... Enfin, ce qui vous dérange quelque part, c'est que vous voyez le mot permaculture comme une espèce de label. Est-ce que c'est ça ou le fait que ça serait des... Il faudrait prendre des cours pour être permaculteur?
Non, mais je trouve ça presque... En fait, c'est presque... Je sais pas, je mets peut-être les pieds dans le plat, mais c'est presque un peu libéral, quoi. De créer un concept, une éthique, et puis d'en faire des outils à vendre, quoi. Enfin,
je sais pas vraiment ce qu'on vend, parce que... Enfin, personnellement, hein, là... Moi, je mets tous les bouquins qui nous appartiennent sur la table, parce que bon, c'est aussi des moyens d'information et qu'on peut aussi se prêter et lire pour ceux qui sont intéressés. Mais pour moi, personnellement, je vois ça vraiment comme un outil qui peut vraiment nous servir dans la conception de lieux et tout ça. Mais c'est pas un truc à faire de l'argent, quoi. Il faut pas non plus rêver.
Enfin, c'est clair. Enfin, je pense qu'avec la permaculture, on peut pas. C'est une philosophie, c'est une vision vers laquelle il faut tendre, mais sincèrement, au niveau réel, je suis paysan, j'ai 200 hectares et avec la permaculture, je peux vivre avec 10 hectares. Qu'est-ce que je fais des autres hectares qui me restent? En étant paysan, j'ai une retraite de misère, je vends mes hectares, surtout en Aveyron, quoi. Enfin,
oui.
Voilà, donc je mets les pieds dans le plat, mais c'est pour dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et à côté de ça, il y a des néo-ruraux qui vont dire, moi, je m'installe, je deviens maraîcher, ou je deviens... je vais vivre de la nature. Mm-hmm. Mais la permaculture, c'est, de tout ce que j'ai entendu, c'est quand même comme un enfant. On met 20 ans à l'élever, donc on bosse pendant 20 ans. On bosse pendant 20 ans, on met de la tulle pendant 20 ans. On met de l'énergie humaine, on met beaucoup d'huile de coude. Mm-hmm. Et au bout de 20 ans, c'est censé se débrouiller tout seul. Ok. N'empêche que il faut vivre pendant 20 ans, il faut les faire. Mm-hmm. Et aujourd'hui, du peu que j'ai vu, mais je ne suis pas allée en Nouvelle-Zélande, ni en Australie, ni au Japon, mais du peu que j'ai vu, toutes les fermes que j'ai visitées, ils ont tous quelque chose, ils ont tous de l'argent derrière, quoi. Voilà. Enfin, concrètement, il y a plein de fermes qui sont en permaculture, mais je ne sais pas si le monde paysan aujourd'hui est capable d'entendre ce discours-là. Je ne pense pas que la permaculture peut être une agriculture en tant que telle.
Ça dépend qu'est-ce qu'on veut mettre sous le terme permaculture. Si on veut faire du maraîchage sur but en permaculture et en vivre, c'est quelque chose effectivement. Pour l'instant, je ne connais pas de gens qui le font. Par contre, si on dit permaculture, c'est réfléchir à... Et finalement, c'est un petit peu bateau, comme vous dites. Et est-ce que ce n'est pas juste un mot étendard pour rallier les gens? Et puis finalement, ceux qui le font vraiment sont ceux qui n'en parlent pas. Imaginons quelqu'un qui regarde vraiment qu'est-ce que j'ai comme écosystème autour de moi. Qu'est-ce que j'ai, par exemple? Je suis en Bretagne. Qu'est-ce qui pousse? Il pousse de l'herbe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui mange de l'herbe? Des vaches. Est-ce que je peux arranger mon élevage pour que les vaches mangent surtout de l'herbe ou quasiment que de l'herbe? Comme ça, j'ai plus à acheter d'intrants, j'ai plus les mêmes frais de vétérinaire,
et
j'ai
plus des feuilles d'arbres,
et qu'éventuellement j'ai des haies qui me protègent mes prairies, etc. Et ben des gens qui réussissent à avoir un élevage qui vit à l'herbe, et ben il y en a. Et mais par contre, ils disent pas qu'ils sont permaculteurs, ils disent qu'ils sont éleveurs. Et puis voilà. Mais sur certains systèmes, ça marche. Et pour que ça marche réellement au point de devenir rentable financièrement, il faut que ce soit au point agronomiquement. Et c'est pas parce qu'on va dire qu'on fait de la permaculture qu'on est au point le jour où on
exactement
l'a dit. Et c'est là aussi que les agronomes du passé, du présent et probablement du futur ont tellement de choses à nous apprendre que les bouquins autour de la table, c'est... par rapport à tout ce qui existe comme savoir-faire agricole. Et qu'on a beau critiquer les erreurs du passé, il y a énormément de choses qui existent dans ce qui se fait et dans ce qui s'est fait, même en agriculture conventionnelle, dont il ne faut pas avoir honte de prendre des idées pour faire marcher les trucs qu'on a envie de faire marcher en prenant à droite à gauche. Voilà.
Pour moi, si on est agriculteur, et que l'on fait qu'on fait de l'agriculture paysanne ou voilà, et qu'on a ces éthiques de base, qu'on veut que le système qu'on crée emmagasine plus d'énergie que ce qu'on met en place pour le créer en fait, donc que c'est un système qui vraiment devient de plus en plus complexe. Et qu'on a les compétences pour faire ça en respectant les écosystèmes locaux et en créant plus en plus de sol et tout ça, ben c'est magnifique. Et il n'y a pas besoin, pour moi non plus, d'un gros label permaculture qui va justifier tout ça.
Il n'y a pas forcément besoin de gros labels, effectivement. Par contre, il y a des gens qui se lancent là-dedans et qui veulent être paysans.
Et qui n'ont pas forcément le savoir-faire.
J'ai des exemples concrets. Une ferme qui a racheté du terrain qui a été pourri chimiquement, donc en gros il est mort, le terrain est mort. Donc la première production, ça va être de produire un sol. Ok, donc ils vont faire du travail sur but, etc., enfin, tout ce qui va avec. À côté de ça, bah, 2 jours par semaine, ils partent à 3h du matin pour aller se servir au marché au gros et puis pour vendre ça dans leur magasin. Ces gens-là, ils ont 40 ans, ils vivent plus, quoi. Ils sont crevés et ils vivent pas. En plus, financièrement, ils vivent pas. Ils n'ont pas de revenus. Voilà. Deuxième exemple, la ferme arc-en-ciel. Alors eux, super, ils ont respecté les zones. Tout ce qui sert le plus souvent et tous les jours, c'est tout proche, etc. Le pré à la fin avec les brebis et puis encore plus loin, la forêt, génial. Bon, ils ont bien respecté le truc. En plus, le BRF, les cochons qui remuent la terre en même temps. Bon. À côté de ça, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans qu'il fait ça. Il n'arrive toujours pas à sortir un revenu. Et non. Et par contre, ça c'est ce qu'on apprend à la fin, c'est que monsieur a été, coopérant à l'étranger pendant toutes ces années, pendant bien une trentaine d'années, et il a des appartements en Suisse, en location, voilà. Donc après, effectivement, il peut se permettre de faire la permaculture et d'avoir des beaux discours sur la nature.
Donc c'est pour ça que moi j'essaye de mettre en avant justement que c'est quelque chose qui concerne tous les domaines de la vie. On ne peut pas avoir quelques hectares et faire un petit joli système de paysans à permacole tout en faisant des choses dégueulasses par ailleurs. Pour amener les sous, pour mettre en place le système. Pour moi, ça c'est pas très juste.
Il y en a d'autres qui le font, mais qui au bout d'un moment, bah, au niveau du couple, se séparent aussi, quoi. Voilà. Enfin,
tu prends typiquement un exemple d'école, c'est-à-dire quelqu'un qui applique justement ce qu'on trouve dans ses bouquins, c'est-à-dire qu'il crée de rien, il crée quelque chose de nouveau, et puis donc il a respecté le design, et il suit à la lettre un programme préétabli qui est tout à fait moderne. Par contre, on peut citer des gens qui ne sont pas labellisés permaculture, mais ils sont tout à fait dans cet esprit-là. et qui sont... Alors, prenons l'exemple d'André Pochon. Il est connu. C'est un paysan. Il n'a jamais quitté sa terre. Il a maintenant des centaines, voire des milliers de personnes qui essaient de le suivre. C'est un producteur laitier. Donc, comme tout le monde, il le dit lui-même, comme tout le monde au début, il a reçu des subventions pour faire du maïs. Donc, il a retourné ses prairies, il a fait du maïs. Et comme il n'y avait pas assez de protéines, il a importé, il a acheté du soja. Et puis, il a commencé à réfléchir. Et dès qu'il a eu des problèmes avec son maïs qui ne voulait pas pousser, il s'est dit, mais c'est n'importe quoi tout ça. On me donne de l'argent pour faire une culture qui ne pousse pas. Et donc, pour ensuite acheter de l'aliment que j'aurais dû produire chez moi. Donc là, il fait tout le compte. Il s'aperçoit qu'il a un chiffre d'affaires colossal par rapport à ce qu'il pouvait avoir avant. Mais qu'au niveau de ce qu'il peut arriver à en tirer pour vivre, c'est rien. C'est un tout petit bénéfice. Donc il s'est dit, ben, je vais revenir en arrière et je vais donner à mes vaches ce qu'elles savent manger, de l'herbe. Donc il est revenu à des prairies et il nourrit ses vaches avec de l'herbe. Ce qui fait qu'il n'a pas besoin d'engrais parce que les vaches font des bouses. Les bouses sont dispersées par les bousiers. L'herbe est nourrie, le soleil donne l'énergie. Et ainsi, on revient sur l'écosystème qui existait avant. Donc ses vaches, il en a moins qu'avant. Parce que bien sûr, il ne peut pas en avoir intensivement. Il fait de la culture de l'élevage extensif. Ses concurrents en conventionnel lui disent « Mais tu fais moins de lait qu'avant, donc tu gagnes moins ta vie. » Mais lui dit « Mais mon chiffre d'affaires, c'est casser la figure. Ok, mais j'ai moins de travail. Je n'ai pas à aller chercher les intrants, à mettre de pesticides. J'ai beaucoup moins de travail qu'avant. J'ai moins de chiffre d'affaires, mais au bout du compte, j'ai un bénéfice qui est plus gros. » C'est-à-dire que ces éleveurs de lait, eh ben, ils gagnent trois fois plus en bénéfice que leurs concurrents qui, eux, ont... plein de vaches en plus, en stabulation, qui achètent du maïs, qui font du... Enfin bon,
là, voilà. C'est le rapport...
Donc la permaculture, c'est ça pour moi.
Rendement.
C'est-à-dire qu'on on parlait de bon sens, voilà.
Permaculture, c'est quand même... Il y a quand même toute une liste, il y a quand même 10 principes, c'est quand même ultra codifié, quoi. Enfin, je veux dire...
C'est pas une religion.
C'est pas une religion, mais quand on est dans ce culte-là...
Mais il faut se méfier des gens qui se revendiquent permaculteurs, voilà, ou gourous en permaculture. Voilà, oui. Alors là, c'est des religions.
Il faut faire très attention parce qu'il y a énormément de gens qui sont en permaculture ou en agriculture paysanne, parce qu'au fond, ça se rejoint exactement, sauf que bah, pour les néo-ruraux, ça passe mieux. Quoi. Enfin, moi, franchement, je suis...
Donc, d'abord...
Mais il ne faut pas opposer les deux, je pense qu'il y a...
D'abord, il y a...
Il faut que les choses décantent, parce que c'est un peu trop nouveau.
Ici, hein. Et puis après, là-bas. Oui.
D'accord. Juste pour ne pas citer que de l'élevage, mais dans le cadre des enquêtes qu'on fait en tant que consommateur Nature et Progrès, j'ai pu voir un agriculteur dans le Tarn, qui ne dit pas qu'il fait de la permaculture, sauf que c'est un agriculteur qui connaît vraiment, vraiment son truc. Et alors, il fait des blés anciens, des vaches, des moutons... quelques autres cultures de fourrage pour ses bêtes. Il arrive à faire tout ça, et quand on regarde sa ferme, on peut le regarder avec un œil cahier des charges Nature et Progrès, on peut aussi le regarder avec un œil les 10 principes de la permaculture, on peut tout cocher, hein. Et sauf que lui, il n'a jamais ni appris forcément les principes de la permaculture, sauf qu'il prend bien garde que faut bien qu'il ait un point d'eau qui soit en bas de là où les eaux coulent naturellement, qu'il n'ait pas à mettre une pompe pour aller remonter ça là-haut. Il faut bien qu'il puisse faire tourner ses prairies et ses plantations de céréales en fonction de la fertilité qui se construit naturellement grâce aux vaches. Il faut bien qu'il ait l'utilité du fumier des vaches. Il faut bien que, et tout ça, ça se reboucle avec toutes les boucles qu'on nous présente en permaculture comme des révélations, qui sont l'outil de base de l'agriculteur s'il renonce à acheter des trucs à l'extérieur pour pallier à ses problèmes. Et donc, moi, c'était un exemple évident, après je m'arrête de parler, que la permaculture, ça pouvait marcher, mais ça marchait pas forcément quand on commençait par la feuille blanche et les connaissances de permaculture. Et ça marche, en tout cas dans le monde agricole actuel, qui est hyper contraint au niveau des coûts, ça marche d'abord par, je suis un agriculteur professionnel, je connais super bien mon métier, et de là, petit à petit, je migre pour éventuellement appliquer 2-3 recettes, ou plus de recettes, ou une vision d'ensemble qui vient de la permaculture. Mais c'est clair que c'est un tel métier qu'on ne débarque pas avec des gros sabots et des bouquins.
Non, c'est pour ça aussi que moi, quand je parle là de vraiment de l'introduction à la permaculture, c'est de dire chacun l'applique avec ce qu'il fait dans la vie. Ça ne sert à rien que moi, j'essaye de faire de la permaculture en agriculture sur 10 hectares, mais j'ai aucune formation pour ça. Je serais archi nulle, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce avec quoi j'ai travaillé, c'est les systèmes d'économie locale. Donc ça, j'ai des compétences. Là, j'ai travaillé plusieurs années à comprendre tout ça, à lire, faire des études, rencontrer les gens, interviewer. Bon, voilà, là, je commence à avoir des compétences. Mais je ne vais pas m'improviser à mettre ça en œuvre dans un système que je ne connais pas, quoi, dans un métier que je ne connais pas. Donc il y a aussi, pour moi, un respect à avoir vis-à-vis des personnes qui ont un métier et qui appliquent des choses qui sont peut-être permaculturelles, mais on n'a pas besoin de l'appeler comme ça. Du bon sens, ça va très bien, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et comme a dit Joël, se méfier des gourous de toutes sortes, quoi. Qu'ils parlent de permaculture ou de politique ou d'économie ou de ce qu'on veut. Hein. C'est chacun a bien sa place. Oui, il y avait une question par là-bas avant.
Oui. Pour rejoindre un peu ce que tu dis et ce que tu viens de dire aussi, moi c'est vrai que la permaculture, de ce que l'impression que j'en ai eue en cherchant justement plus d'informations sur Internet, en rencontrant des gens, en allant voir un peu aussi d'autres fermes, c'est qu'il y a une partie des permaculteurs qui sont sur un des principes, d'ailleurs sur un des 10 principes où, de partage justement des connaissances, et il y a aussi une énorme économie qui s'est créée. Il y a beaucoup de choses, je le vois peut-être, je ne le connais pas trop en France, mais je l'ai beaucoup plus vu en Espagne et au Portugal, où ben, c'est stage permaculture, on a l'introduction à la permaculture, puis après il y a les stages, et les stages, c'est faut manquer, quoi, c'est très cher. Et il y a un business derrière, je pense. Enfin, ça donne réellement cette impression, et ça décourage plutôt pas mal justement d'aller plus loin. Là. De se dire, bon, bah, finalement, on peut peut-être retrouver des informations ailleurs, puisque finalement, c'est des informations qui se recoupent un peu sur d'autres choses.
J'entends. Je ne sais pas trop quoi répondre. Je pense que c'est, pas, c'est, voilà, que... c'est bien apporté, quoi. Et là
Oui, tu as dit que tu avais des compétences en économie locale. Tu peux dire des choses concrètes en dehors du sel, hein?
En dehors du sel.
Enfin, voilà, permaculture et l'économie locale, comment tu vois ça?
D'accord.
En dehors du sel.
Donc, au-delà des sels, il y a tellement de différentes manières de ranimer l'économie locale, mais c'est vraiment... Enfin, ça a en général deux bases, quoi. C'est la base de remettre en communication les gens, donc de recréer du lien, pour que chacun sache qu'est-ce qu'il peut se procurer localement. C'est pas forcément les métiers avoués des gens, mais les compétences, les savoir-faire et tout ça. Et que cette information circule sur un plan vraiment très local. Donc, dans une grande ville, c'est sur le plan d'un quartier. C'est aussi Je sais que je peux très vite me perdre dans le détail, donc je vais essayer de rester sur...
Donner un exemple quand même.
Oui, alors, ce sur quoi j'ai travaillé beaucoup là en Nouvelle-Zélande, c'est les groupements d'investissement et d'épargne commun. Donc en fait, c'est des groupes souvent entre 5 et 20 personnes qui se décident de mettre leur épargne ou une partie de leur épargne en commun pour pouvoir faire des investissements qui vont servir à une personne dans le groupe. Ou à plusieurs, mais en général c'est à une personne, une famille dans le groupe. Et qui ensuite reste la propriété du groupe jusqu'au moment où la personne qui en tire bénéfice a payé l'investissement et épargné la même somme. Ce qui fait qu'en fait, par son épargne, il met autant au service des autres du groupe que ce que les autres dans le groupe ont mis à son service. Donc il y a une notion de réciprocité et de circulation interne et de communication très latérale, parce que tu épargnes 5 euros par mois ou que tu en épargnes 50, ça n'a aucune importance dans ton droit de demander au groupe, est-ce que nous tous ensemble, là on pourrait investir dans telle chose dont j'aurais besoin. Donc ça peut être entre une imprimante ou des semences ou une baraque. C'est très vaste hein, ce que les gens ont vraiment réalisé.
Et dans l'épargne, c'est au prorata de ce que chacun gagne ou chacun doit épargner la même somme?
Chacun épargne ce qu'il veut.
D'accord.
Donc, ce qui veut dire que si moi et toi et puis toi, on fait l'épargne en commun, moi, j'ai vraiment pas de revenus en ce moment, mais je mets quand même 10 euros par mois. C'est énorme pour moi. Donc, je suis très contente. Vous êtes bon, d'accord. Et au bout d'un certain moment, je me dis... Mais si j'avais si j'avais une grelinette. Ah, ça me faciliterait beaucoup la vie. Alors une grelinette, c'est une espèce de fourche comme ça, hop, et puis on le bouge comme ça et ça ouvre le sol, d'accord. C'est vraiment une expression bizarre. Bon, la chose. Donc, vous dites, d'accord, on t'achète une grelinette, super. Et puis, ben, à fur et à mesure que je paye mes 10 euros par mois, j'épargne aussi 10 euros à côté, ou bien je mets 5 euros en paiement et 5 euros en épargne parallèle. Et au moment où j'ai épargné autant que ce que vous avez payé pour m'acheter la grelinette, je suis libre de contrat à nouveau. Donc, c'est un système qui est très inclusif et qui intègre les gens qui sont de très différents revenus et qui permet à des personnes de faible revenu de faire des investissements par la solidarité, mais sans se sentir en infériorité. Donc, il y a quelque chose d'assez fort pour moi dans cette notion-là. Donc ça, c'est une manière de, parmi plein d'autres. Vous avez déjà entendu parler ?
Non, je disais que l'intérêt, c'est donc de ne pas passer par les banques, en fait.
Oui, voilà. Et de faire les choses, du coup, sans intérêt.
Les crédits
sans intérêt,
à la con, ouais. Les trucs comme ça.
Donc, sans intérêt.
C'est le principe des tontines.
Oui. C'est les tontines, mais je ne sais pas combien ils fonctionnent vraiment sur un mode de réciprocité. Parce que là, ce qui pour moi est vraiment intéressant, c'est que ça met tout le monde à pied égal quand on épargne en même temps que l'on rembourse. Et que du coup, moi je sens à la fin, j'ai quand même mis la même chose au service des autres que ce que les autres ont mis à mon service. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Après, je ne sais pas exactement comment fonctionne les tontines.
Tontine et enroulement aussi, qui permet à chacun d'être une fois apporté du crédit et d'autres fois être en situation inverse. Et ça se fait sur plusieurs roulements, suivant le nombre de personnes.
Donc là, c'est un exemple. Après, il y a des bons d'achat pour investir dans des systèmes de production locale. Il y a toute une panoplie de différents outils d'économie locale. Quoi.
Mais ça nous parle beaucoup plus quand vous prenez un exemple. Oui. Parce que comme nous, on n'est pas dans l'étude de...
Oui.
Bah, oui.
Donc, pour continuer... Enfin, il y a quelqu'un d'autre qui veut...
Non, je voulais simplement demander... Permaculture.
Oui.
D'où vient le terme? Oui. Est-ce que
d'accord.
C'est la permanence, je suppose, mais enfin.
J'aurais dû commencer par ça.
Est-ce que c'est le même en anglais ou à peu près ou...
Donc, permaculture en anglais, ça venait de permanent agriculture. Permanent agriculture. Et c'était à la base, c'était de créer des systèmes nourriciers, un système
oui,
nourricier.
Oui.
Pardon, des fois je me trompe. Qui soit permanent et qui puisse perdurer par eux-mêmes. Donc ça, c'était la base. À fur et à mesure qu'ils ont appliqué ça, ils ont découvert que non seulement c'est important de produire de quoi manger de manière permanente, mais c'est aussi toute une question de culture humaine. De comment est-ce qu'on crée une culture humaine qui nous permet de vivre sur cette planète en permanence, indéfiniment voilà. Donc ça a été, oui, c'est de là d'où vient le terme.
Donc le terme englobe bien ce dont vous parliez au début, c'est-à-dire tout.
Oui.
Si on peut dire.
C'est la culture de la permanence, j'aime bien dire en français, mais j'essaie de justement ne pas fonctionner à base de choses qui sont, des ressources qui sont limitées. Donc le pétrole, tous les intrants chimiques en agriculture, voilà, toutes ces choses-là, essayer de faire ça.
Oui, et la ville et la permaculture, est-ce que ce n'est pas deux choses opposées? La vie citadine, telle qu'on la voit actuelle, et puis...
qu'on la voit actuellement, oui, je pense que c'est vraiment pas possible, mais il y a pas mal de gens... qui s'inspire de la permaculture pour pouvoir mettre en place des systèmes qui sont vraiment centrés sur les villes. Où on dit, bon, les campagnes lointaines, autant qu'elles soient sauvages, et que la production de nourriture, de carburant, d'énergie pour chauffer, construire, les matériaux pour construire, etc., soit produit très près de la ville. Comme ça, on évite tous ces transports inutiles de très loin, etc. C'est aussi une manière de voir les choses, quoi. Oui.
Oui, je voulais simplement signaler ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si on dit Détroit ou Détroit, mais enfin, que se passe aux États-Unis, dans la ville sinistrée de l'automobile qui est Détroit, en français. Et il semble que les gens qui sont là, beaucoup sont chômeurs, et où il y a eu beaucoup de départs et beaucoup de choses démolies, ils récupèrent ces terres, ils les retransforment en terres agricoles et ils font des légumes, ils essaient de vivre.
Donc il y a plein de systèmes pour rendre la vie, pour amener du bon sens et de la permaculture dans la ville. Et de faire des cultures sur les parcelles qui sont libérées, d'utiliser les grands bâtiments des zones industrielles pour d'autres utilisations. Enfin, bon, c'est sûr qu'il y a plein de possibilités en ville aussi.
Et par exemple, l'agriculture par étage, comme il l'imagine dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est-à-dire de faire des jardins en pleine ville et sur étage, pour vous, ça pourrait être logique ou c'est complètement aberrant?
Je ne sais pas, je ne connais pas assez pour
sur les balcons ou dans des tours?
Oui, c'est-à-dire
qu'en
fait, ils feront des immeubles à légumes.
Ça m'a l'air très étonnant parce que ce que je me dis, bon, il faut du soleil quand même pour les légumes. Mais
oui, mais comme ils contrôlent la toiture.
Une terrasse,
par l'étage. Ah, l'étage,
enfin,
moi ce que j'ai vu,
c'est vitré.
C'est vitré. C'est des projets, j'ai pas vu ça.
C'est vitré, ouais.
Donc c'est comme des énormes serres en hydroponique.
Tout en hydroponique, en air conditionné, vitré. On entre avec une combinaison bio-bactériaux pour ne pas faire rentrer la moindre spore de champignons. Et s'il y a une panne de courant, les tuent, elles sont toutes mortes.
Donc pour moi, la seule chose qui a du sens, c'est de dire, dans la ville, on a plein de déchets. Alors comment est-ce qu'on peut valoriser ces déchets comme source de nutriments pour les plantes qui ensuite vont nous nourrir? Comment est-ce qu'on boucle les boucles des écosystèmes? Donc on a énormément de déchets. Bon, comment est-ce qu'on les fait re-rentrer dans ce système qui est
fermé? Compostant, c'est ça, non?
Bon, après, ça peut se faire de différentes manières, mais dans mon sens, l'échelle le plus petit est mieux que le gros échelle. Grande échelle. Donc, si là, ils envisagent d'avoir tous les eaux usées qui vont se passer dans un truc, dans l'hydroponie, dans ce grand truc, peut-être que ça marcherait et qu'il n'y aurait pas trop d'intrants en énergie et tout ça. Mais à mon avis, si chacun le faisait dans leur immeuble, ça marcherait vachement mieux, quoi. Bon, après, ça, c'est... Et je pense aussi qu'il y a le souci de la densité de la ville, qui s'améliore dans les endroits comme Détroit où beaucoup de gens partent parce que l'industrie ne tient plus là-bas, on va dire. Et où il y a des terres à récupérer, où on peut faire ce genre d'expérience. Il y a quelqu'un qui j'ai vaguement entendu. Oui, toi Nicolas, non? Tu n'avais pas dit un truc comme...
On a entendu parler des 10 règles. Oui. De base, est-ce qu'on peut nous rappeler ou les dire?
Bon, c'est dans ce livre-là, et c'est Monsieur Holmgren qui a essayé d'extrapoler 10 principes bien définis, dont parle en partie déjà Mollison dans celui-là, qui est un peu le gros pavé qui a démarré un peu le mouvement. Donc, Mollison, il en parle plus dans l'installation du système agricole, en permacole. Et Holmgren essaye d'extrapoler ça et de le mettre aussi dans plein d'autres systèmes.
Vous l'avez en français sur le site de Holmgren. Bon.
Pas le livre entier.
Pas le livre. Le résumé, 20 pages à peu près.
Bon, donc,
sinon, je peux prêter un mémoire là, avec les principes, le détail et tout, s'il y en a qui sont intéressés.
Sur les principes, les 10 principes de Holmgren?
Ouais.
Ouais, bah oui, c'est... Mais il n'est pas... Bon.
C'est que du français.
C'est en français, bon, super. Qu'est-ce que tu voudrais que je raconte par rapport au principe.
Mais quels sont les 10 grands principes? Donc, on va les énumérer. Peut-être que ça donnera une idée un peu. Parce que y a quand même, bon, tu as l'air de dire que tout le monde peut s'inventer permaculteur et inventer sa propre permaculture et théorie de la permaculture. Or, je viens d'apprendre, parce que je ne connais pas du tout le sujet, qu'il y avait 10 grands principes quand même.
Alors.
Et tu veux les connaître déjà?
Je peux les dire. Hein. Ce que je voudrais dire, c'est que Holmgren, c'est une personne parmi toutes les personnes qui font la permaculture. Et il y a plein d'autres gens qui écrivent des livres qui sont excellents, etc., etc. Donc, pour moi, ça n'a pas du tout valeur de... voilà, parce que j'ai suivi les principes. Ils sont très bien. Et ça aide à garder dans l'esprit... voilà. Hein? Bah, il y en a 12 en plus. Ouais.
C'est pas la copie.
Donc,
pas la copie,
il parle d'observer et d'interagir, donc c'est d'avoir une certaine humilité vis-à-vis de ce qui est déjà sur place. Il parle de collectionner et garder l'énergie, donc ce qui veut dire que il faut créer des systèmes qui puissent accumuler et stocker et faire circuler à l'intérieur. Plus d'énergie que ce que l'on a mis en place pour créer ce système. On parle de
obtenir une production.
Ouais, une production.
Justement, ça rejoint les problèmes qui ont été cités, c'est que si je me lance dans un projet permaculturel et que je bois le bouillon pendant 20 ans, et ben mon projet ne marchera pas. Donc il faut aussi arriver à
dégager
quelque chose de bénéfique dès le début, même si c'est pas l'idéal final, mais dès le début avoir quelque chose.
Donc ça, par exemple, je pense tout de suite à un ami qui a, pour justement rétablir la qualité de son sol, il a commencé apiculteur. Il a tout semé en engrais vert qu'il laissait monter en fleurs pour nourrir les abeilles. Donc du coup, bon, il a commencé comme ça et ça lui faisait un petit revenu. Après, il a eu aussi, il a fait du mycélium, donc des champignons, à faire en mesure qu'elle s'améliorait. Enfin, donc c'est de tout de suite réussir à en tirer quelque chose. Après, c'est l'autorégulation et d'être présent à tout ce qui te retourne, dans le sens où, oh là là, j'ai du mal avec ces principes parce que ça contient tellement de choses. Et c'est, et en même temps c'est évident quoi, dans le sens où bah si je fais quelque chose je vois qu'est-ce que ça donne comme résultat, et ça c'est le retour de l'action que j'ai fait, enfin,
rétroaction,
c'est la rétroaction,
rétroaction, ouais,
c'est
ouais.
C'est voilà, c'est pour dire être attentif aux messages qui reviennent des actions qu'on fait. Si on attend d'avoir le retour de bâton par la boucle longue, et ben, le truc il sera déjà par terre. Typiquement, si je laboure profond, pendant quelques années, ça va à peu près bien se passer, mais si je ne vois pas que mon sol est en train de se barrer, ben, c'est quand il y aura les cailloux qui vont affleurer que je vais avoir vu la boucle de rétroaction lointaine. Alors que si j'avais vu de suite, j'aurais pu réagir plus tôt.
Ouais. Après, c'est utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables. Donc, utiliser en premier lieu tout ce qui est renouvelable et laisser de côté. Voilà. Donc, c'est aussi d'être. Comment on appelle ça ? Fine-tuned. Du coup,
réceptif. Quand je,
voilà, réceptif. Merci. Être réceptif à qu'est-ce qui pourrait être valorisé et qui ne l'est pas. Donc, quelles ressources renouvelables est-ce que je peux encore valoriser dans mon système? Puis, c'est de ne pas produire de déchets. Donc, là, on est au 6. D'éviter qu'il y ait des déchets, que tous les déchets sont réutilisés dans le système, etc. Après, il y a... je déteste. Design from patterns to detail.
Oui, partir de la vue d'ensemble hein, vers les détails. Pas commencer par les détails, mais essayer d'avoir une vue d'ensemble.
Ouais.
Et une vue d'ensemble structurée. Patterns, c'est
les formes.
Oui, c'est voir quelles sont les structures qu'il y a dans notre vue d'ensemble. Que ça, ça va avec ça, que ça, ça forme un tout, que ça, c'est similaire. Voir
l'esprit de synthèse.
Voilà, le dessin d'ensemble avant de se lancer sur les détails. Bon. C'est souvent un dialogue entre les détails et la vue d'ensemble. Hein. C'est rare de pouvoir voir le...
Et après, il y a l'intégration plutôt que la ségrégation.
Donc on essaye de créer des liens entre toutes les différentes parties du système pour plutôt que de compartimentaliser et dire que ben là-bas je vais faire tel truc, puis là-bas je vais faire tel truc, mais essayer de voir comment est-ce qu'on peut les lier ensemble.
C'est un exemple concret, c'est éviter les monocultures.
Oui.
Et essayer de trouver des associations de plantes qui permettent d'éviter les pesticides. Tout le monde connaît le poireau préfère les fraises. Donc là,
l'oignon, il y a les fraises, carottes,
pas dans l'oignon, les carottes, etc.
Le basilic et les tomates, c'est mieux dans les.
Donc une monoculture très connue, très polluante, c'est, devinez,
le maïs.
En France, la vigne.
Ouais.
C'est une monoculture.
Oui.
Et c'est extrêmement polluant parce qu'une vigne, qu'est-ce que c'est ? Un cépage, qu'est-ce que c'est ? C'est un individu qu'on a greffé à des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'exemplaires. Imaginez, nous serions ici un cépage, et bien on se ressemblerait absolument tous. Donc s'il y en a un qui attrape un rhume, tout le monde a le rhume. Voilà. Alors que là, la diversité fait que ben, il y en a qui auront le rhume et pas d'autres.
Donc, voilà. Là, en fait, ça, ce serait plutôt le principe numéro 10, qui est utiliser et valoriser la diversité. Donc, comme quoi, tous ces principes, voilà, évidemment, ils se recoupent. Et ils ne sont pas tranchés comme ça en 12 cases. Quoi. C'est, là, on a tout de suite rebondi là-dessus. Après, c'est utiliser les solutions petites et lentes. Donc, on va plutôt commencer à créer les choses près de la fenêtre par laquelle on regarde le plus souvent dans son appartement ou sa maison, parce que c'est là où on met son attention. Et on va plutôt commencer par un petit bout de terre que de commencer par un truc immense. Ou plutôt commencer par son quartier, quand on veut développer l'économie locale, que d'essayer de faire quelque chose sur le plan de la région. Donc, voilà, ça c'est faire les choses petites et lentement, et donc attendre d'avoir les retours. Et puis utiliser les interfaces et valoriser la marge, là où se rencontrent deux différentes choses, c'est là où il y a le plus de possibilités. J'aime pas ces principes, je pense que ça se voit, mais je les trouve. Bon, ça c'est juste moi, donc j'aurais aimé ne pas en parler. Et puis après, à la fin, il y a utiliser créativement tout changement. Donc s'il y a un changement qu'on observe, comment est-ce qu'on peut l'intégrer ? Comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de créatif à partir de ça ?
Moi, je suis un peu surprise. Là, tout d'un coup, on ne parle plus que d'agriculture. Alors, je suis arrivée en pensant justement que la permaculture, c'était en lien avec l'agriculture. J'apprends qu'il y a tout un tas d'autres choses, en fait, que ça a des répercussions sociales, etc. Et là, pof, on est de nouveau centré, en fait. J'ai l'impression qu'on ne parle plus que d'agriculture. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Depuis tout à l'heure, la première partie, il y a une... je ne sais pas, tout d'un coup, là, ça me tombe une fermeture. Enfin, à la fois, je comprends parce que c'est quelque chose de...
C'est plus facile de prendre des exemples concrets,
oui, mais on dirait
du côté de l'agriculture.
On dirait que tout d'un coup, il n'y a plus que ça. Alors que moi, j'étais vachement contente, je me dis, ah, ça fait
non,
une ouverture.
Je pense que c'est les exemples qui ont été choisis dans ce sens. Mais sinon, sur les liens, ils pouvaient être très bien des liens sociaux et pas forcément des liens d'associations potagères. Je
trouve quand même que les trois personnes qui ont expérimenté depuis 30 ans et qui ont théorisé, ce sont des agriculteurs, ce ne sont pas des économistes, ce ne sont pas des sociologues. Alors, après que.
Non, il ne fait pas.
Plus sociologue qu'agriculteur.
Il fait des expérimentations en agriculture, mais il ne fait pas vraiment d'agriculture.
Non, mais peut-être que c'est quelque chose de plus pratique, de plus concret. D'accord.
Je pense que l'agriculture et les cultures en général, enfin pas forcément en grande échelle, hein, les jardins aussi, c'est très présent parce que un des besoins les plus fondamentaux de l'humain, quand même, c'est de bien manger. Quoi. Donc, c'est un peu le sénéchalon.
Juste par exemple, le principe numéro 9, là, utiliser des solutions petites et lentes. Donc, au jardin, ça va être, je voudrais faire une grande clôture, ou alors, simplement, je vais attendre que la nature fasse la clôture. Alors, pour que la nature fasse la clôture, je peux juste entasser des branchages. Les oiseaux vont venir... mettre leurs graines, enfin manger les graines ailleurs, venir laisser tomber leurs fientes avec les graines dans les branchages sont protégés de chevreuils et les arbres ils vont pousser. Voilà une solution petite parce que moi j'ai juste mis des branchages et puis j'ai rien fait, puis au bout de 20 ans il y a une haie. Ça c'était pour le jardin. Pour la vie urbaine, une solution petite et lente, par exemple pour se déplacer, ce serait le vélo. Alors ça coûte pas très cher, ça se range dans un garage à vélo facile. On considère que c'est lent par rapport à une voiture, puis quand on y réfléchit, et c'est peut-être pour ça qu'il dit que c'est utiliser les solutions lentes, on se dit pourquoi utiliser les solutions lentes s'il y a du rapide, mais des fois on gagne du temps. Là le vélo, alors c'est un truc très intéressant, la vitesse moyenne d'un vélo, à peu près 15 km/h. La vitesse moyenne d'une voiture, dans l'Aveyron, elle est 45
km/h. L'Aveyron, c'est 40. Non, c'est faux. Le domaine du Rallye du Rouergue, c'est 120 à l'heure.
Vous comptez pour faire 6000 km par an ou 12000 km par an, le temps que vous passez dans votre. Le nombre de kilomètres que vous parcourez, le temps que vous passez dans votre voiture pour faire ces 12000 km par an à 45 km/h. Ça fait, donc on a dit que ça faisait 45 km/h de moyenne dans l'année. Mais si on rajoute à ce temps-là le temps qu'on a passé à travailler pour payer la voiture,
et payer l'essence,
et payer l'assurance, et la voiture moyenne de la voiture.
C'est le calcul d'Illich.
Elle est plus basse que le vélo. Et donc utiliser les solutions petites et lentes, voilà un exemple qui n'est pas du jardin.
On roule à 7 km à l'heure en fait, Illich.
Il faut se mettre à l'évidence quand même. Les gens qui travaillent à 2 cases de ville, qui travaillent à 2 cases de ville, qui habitent à Rodez, bon, c'est vrai qu'il faut s'habiter à côté, sur place. Mais on est en couple la plupart du temps, il n'y a jamais de travail. Personne.
Celui qui fait le national, il n'est plus à 45 km de moi.
Il faut se mettre au contexte. C'est comme quand vous êtes en agriculture, vous dites jusqu'à présent, on ne parle que de petites structures, de tout ça. Mais le monde, on ne va pas le nourrir, la permaculture. On ne fait que dire que dans quelques années, le monde, on ne pourra pas nourrir le monde. Mais je ne sais pas comment on va faire.
Ce qui est vrai, c'est que le monde se nourrit en permaculture dans tous les pays qui ne sont pas occidentaux. Qu'on est en train de démolir cette agriculture vivrière pour se fournir en
coton,
en huile de palme, en et que peut-être que la permaculture n'est pas viable en Occident parce que l'agriculture, elle est tellement subventionnée. Quand on essaye de faire marcher juste la nature, elle n'est pas assez subventionnée pour le faire. Et c'est peut-être pour ça que les gens qui font de la permaculture sont obligés de faire des stages ou d'avoir un boulot de donner des stages ou d'avoir un boulot à côté. C'est une manière de subventionner une technique agricole parce que la concurrence, elle est tellement subventionnée que forcément on est hors.
Si on laissait tomber toutes les subventions qu'il y a dans l'Union européenne, là je pense que la donne elle serait complètement différente. Et c'est sûr qu'avec l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui, dans 20 ans, là, on ne pourrait vraiment pas nourrir le monde, parce qu'il n'y aurait plus de sol, du tout. Là, il n'y aurait plus une bactérie qui... Enfin, si, j'exagère, mais je veux dire, le sol, il ne serait plus du tout fertile. Déjà, les sols en Europe, franchement, ils sont dans un état...
Ils sont morts, il n'y a pas de vie.
Il
n'y
a pas de vie dans le sol.
C'est la fuite en avant avec les systèmes de culture hors sol, puisque correspondant à ce qu'ils viennent de dire, pour pouvoir arriver à nourrir toute l'humanité, en mettant des guillemets là-dessus, on va aller à la culture hors sol, donc comme on le fait déjà pour les endives, pour les tomates, pour les concombres, pour des choses comme ça.
Pour les légumes peut-être, mais aller faire des céréales hors sol.
Ah mais oui. Mais si, finalement, c'est...
Grâce au gaz de schiste, nous pourrons pendant 200 ans faire de la culture hydroponique. Et après nous le déluge, hein, parce que dans 200 ans, on ne sera plus là.
Et il n'y aura ni plus de schiste, ni...
Parce qu'il y aura eu le déluge.
Ouais. En fait, pour ne pas rester sur la notion d'agriculture, il faudrait appeler ça la perma-démarche ou la perma-tendance.
C'est justement ça, en fait. Au début, on s'accorde sur la perma-culture, parce que agriculture, mais c'est aussi la culture de la permanence.
Oui,
donc les changements de.
Ce qu'on retrouve dans l'agriculture.
Non, c'est la culture
Mais ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, à chaque fois, on retrouve inconsciemment des exemples d'agriculture.
Peut-être parce que ça nous parle plus aussi.
Je pense que là aussi, à la fois, cultivent tous les deux plein de choses qui se mangent.
Ils ne sont pas agriculteurs, justement. C'est pas leur métier.
Mais vous. Les liens avec, par exemple, la biodiversité au jardin.
Non, je trouve que c'est très différent un jardin et puis une ferme sur laquelle on doit vivre. C'est pas du tout la même démarche,
C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste dire que si les exemples sont tirés par là, c'est aussi que peut-être que vous avez plus la tête dans le produit à manger et que on pense pas aussi rapidement au vélo en ville.
Alors j'aurais une autre explication peut-être, c'est que les cultures qui ont eu la plus longue permanence ne sont pas des cultures urbaines. Les cultures qui ont duré le plus longtemps dans l'humanité sont des cultures qui sont attachées à la terre. Et les villes, ça va, ça vient. Et puis Rome, elle s'est pas faite en un jour, n'empêche que c'est fini. Enfin, voilà. Puis bon, c'est revenu maintenant.
Moi, je pensais pas du tout, mon propos n'était pas du tout de confronter l'urbain et le rural.
Mais pourquoi nos exemples retombent beaucoup sur l'agriculture en permaculture? C'est peut-être parce que les bons exemples qu'on a à piocher dans le monde, ils ont plutôt été développés dans les cultures rurales. Que dans les cultures urbaines qui ont tendance à partir sur la fuite en avant, à absorber de plus en plus de ressources jusqu'au jour où la ville elle tombe parce qu'elle n'a plus les ressources pour la soutenir. Il y a des bonnes idées en ville, mais elles ne sont pas toutes bonnes.
Ne pas produire de déchets, par exemple, ça peut aussi être de... Quand moi, je ne veux plus porter un certain vêtement parce que ça ne me va plus, parce que j'ai grossi, minci, etc. Hop, je le passe à quelqu'un d'autre. Quand c'est un peu abîmé, je veux d'abord penser à le réparer, puis le re-réparer, puis l'utiliser comme vêtement du jardin, et puis après, finalement, ça va devenir un chiffon, plutôt que le jeter à la poubelle tout de suite, qui a quand même été une attitude très courante, surtout parmi les gens en ville. Donc,
ce qui m'intéressait, c'était l'idée qu'il pouvait s'appliquer partout, quoi. C'était plus le principe, quoi. Après, c'est pas la question de la ville, alors là...
Ce livre-là en particulier, les 10 principes sont vraiment déclinés pour... plein d'exemples et pas du tout que jardin. Il a énormément d'exemples qui sont dans plein de domaines.
Voilà. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'en parler avec peu de temps et dans... Je vois qu'il y a des gens qui passent, mais je voulais juste vous dire merci beaucoup d'être venu. Merci. Et puis, bonne soirée. Voilà. Je voulais dire aussi, s'il y a d'autres gens qui veulent commencer à partir, pour ceux qui veulent avoir de l'information, si au cas où je ferai une intervention plus sur 2 jours, ou avec un peu plus de débat, ou avec autre chose, ou se mettre en lien, ou demander des conseils, ou se mettre en lien avec les associations, etc., laissez votre nom, commune et adresse email, comme ça je peux vous contacter pour des choses qui vous concernent. Par rapport à comme ça. Et je prendrai juste ça pour pouvoir ensuite vous envoyer un mail et dire bonjour, c'est moi, voilà, je suis, si vous voulez demander quoi que ce soit. Et après, vous pouvez vous désinscrire facilement.
Il faut le mettre à la sortie parce que
oui,
que
voilà. Vous pouvez passer par la sortie là-bas. Attends, il y a un stylo là. Hop.
Oui. On peut continuer si vous voulez le débat. Et sinon, on peut aussi parler avec Linéa, qui est là à notre disposition encore jusqu'à tout à l'heure. Mais donc, si vous voulez, on peut arrêter le débat général et puis ensuite discuter entre nous si on a envie, parler avec Linéa. Et donc, si vous voulez bien, il y a la liste possible pour Linéa. Moi, j'ai l'habitude aussi de laisser cette liste pour les jeudis en question pour vous informer de la suite. Et donc, pour le prochain jeudi en question en particulier, il aura peut-être lieu sur le contrôle qui, dans notre société, prend de plus en plus de place. Le contrôle dans les transports en commun sur la région parisienne. On vous suit à la trace, on sait quel est le parcours que vous avez fait en ville. Le contrôle des bêtes et le suivi des bêtes dans l'élevage. Le contrôle, par exemple, des chauffeurs de poids lourds qui ont un GPS pour se repérer eux, mais qui sont par la même occasion repérés par leur patron pour savoir s'ils gardent bien le cap sur la bonne route et s'ils ne perdent pas du temps en cours de route. Donc tout le contrôle, la société de contrôle, c'est peut-être ça notre prochain débat. Je dis bien peut-être... On en discutera davantage mercredi pour effectivement le valider ou peut-être prendre un autre sujet. Donc voilà, si vous voulez suivre les jeudis en question, la petite liste à remplir pour pouvoir mettre votre mail. Il y a, depuis le début, il y a à peu près 90 personnes, depuis qu'on fait les jeudis en question, qui se sont mis sur la liste et qui reçoivent l'information. Je te repasse la parole. Je vais juste prendre le chapeau pour le déposer à l'entrée, pour comme ça vous puissiez mettre votre participation. Non, 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 le chapeau il est dans le trou à côté de... Voilà, dans mon sac il y a le chapeau. Tu as le droit de fouiller. Oui, que le chapeau. Et donc le mettre, faites le passer sur la table du fond là-bas.
Il est percé. Voilà.
Bon, je repasse la parole à Vinia.
Avant que je vous lâche complètement et tout ça, j'ai juste envie de dire que là, j'avais commencé par faire une super présentation rapide de la gestion du territoire. Alors, juste pour vous rassurer, il y a aussi les bâtiments avec toute une liste de solutions concrètes qui correspondent aux bâtiments et à la construction. Il y a les outils, les technologies méthane à base de fumier, les outils à main, tous les types de vélos électriques au solaire, tout ce genre d'outils et technologies appropriées qui correspondent à ce qu'on peut faire. Micro-hydro et petite éolienne, plein de choses comme ça. Il y a l'éducation et la culture avec toutes les... l'école à domicile en groupe, par exemple, les pédagogies Waldorf, faire de l'art et de la musique ensemble plutôt que d'être assis à regarder les gens sur une scène. Donc il y a plein de... Ça aussi, c'est des manières d'appliquer le fonctionnement de l'écologie sur la vie humaine, quoi. De participer plutôt que de ne rien faire et d'observer. Donc, après, il y a la culture de transition en général, qui, les initiatives de transition, je ne sais pas si vous en avez pas entendu parler. Ça, c'est en anglais, mais il est
sorti en français. Maintenant.
Il est sorti en français.
Ouais, le guide des initiatives de transition.
Et ça parle de quoi?
Donc, c'est.
En 30 secondes. C'est quand un quartier, une ville, un canton rural, des gens veulent se prendre en main en tant que citoyens pour envisager leur quartier, leur ville, leur canton rural, etc. Qu'est-ce qui sera dans 20 ans, dans 30 ans, quand on imagine qu'il y aura de moins en moins d'énergie fossile disponible, et quelles sont les étapes qu'on met pour y arriver de façon paisible et structurée et renforcer la résilience de la communauté, c'est-à-dire renforcer la capacité de la communauté à résister aux problèmes qui vont se poser quand on perd de l'énergie.
Mais est-ce qu'il ne faut pas toucher les mairies dans ces cas-là?
Et souvent, cette initiative citoyenne touche les mairies. Parce que d'un seul coup, ils se rendent compte que les gens sont intéressés par ce sujet-là. Et souvent, les mairies soit reprennent des idées, soit reprennent carrément les dossiers, soit ils travaillent ensemble avec l'association. Il y a des choses qui se font. Alors, en Angleterre, il y a beaucoup de choses qui sont faites. En France, ça naît un peu partout et il y a des choses intéressantes.
Ou ça, par exemple,
il y a des parkings qui ont été remplacés en ville par des jardins, par exemple. Il y a des villes, si. Il y a des villes, je crois, en Angleterre, essentiellement, où les quartiers, les gens ont décidé de ne plus utiliser la voiture, les remplacer par qui, ils ont mis des jardins.
Non, je rigolais simplement parce qu'on avait abordé le sujet des jardins de Marcillac, qu'on voulait transformer en parking. Voilà.
Moi, je suis confronté à une contradiction, mais dans ma réflexion. Et je suis confronté à une contradiction dans ma réflexion, c'est quelque chose que je ne comprends pas, et je souhaiterais savoir, ça pourrait servir à titre d'exemple de permaculture, quelle solution, en réfléchissant dans le cadre de la permaculture, on pourrait apporter à cette contradiction. Alors c'est la suivante, j'habite un petit village qui veut s'étendre, toujours grossir. Alors on construit des lotissements, des pavillons, etc. On fait vendre ou on arrive à faire vendre aux agriculteurs leurs terres. On modifie totalement la physionomie du village. On fait une pression fiscale sur les petits jardins qui arrivent en centre-ville, puisque le village s'étend. on fait la pression fiscale pour faire vendre et pour pouvoir construire. Et quand on a construit, on dit l'école est plus assez grande, il faut l'agrandir. Et après on dit il faut construire parce que si on veut conserver l'école telle qu'elle est, il faut qu'il y ait des enfants qui viennent et on n'en sort plus. Et le village il grossit. Mais en même temps, il faut bien que les gens se logent. La population, elle croît. Hein, on arrive au monde à 7 milliards, je crois, mais en France, moi, quand je suis né, on n'était pas à 65 millions. Hein. Alors, moi, je vois pas bien de solution, là. D'autant plus qu'on construit des pavillons. Chacun veut ses 1000 mètres de carré ou 2000 autour. Mais je vois pas un HLM ou un bâtiment, une tour, dans mon village. Ça serait invivable aussi.
Alors, de mon point de vue, la première chose à voir, c'est est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont les mêmes questionnements que toi, qui sont dans le village, avec qui, donc, vous pouvez penser à plusieurs. Parce que déjà, à plusieurs, on pense vachement mieux. Et la deuxième chose que je me dis, c'est qu'il faut arriver à comprendre les raisons pour lesquelles le village veut grandir. Qui c'est le village qui veut grandir? Donc, quelle partie de la population? Qu'est-ce que c'est qui se passe en dessous? Alors, c'est pas juste quelque chose qui se passe comme ça. Hein. Donc, dans mon sens, il faut d'abord observer et puis en parler et y penser à plusieurs. Parce que ça aide pour comprendre justement votre lieu. Et qu'est-ce qui permettrait d'avoir une richesse et une force locale qui est peut-être ce qu'ils cherchent. Je peux que répondre avec un certain côté général, mais...
Alors effectivement, j'ai cherché, j'ai essayé de parler avec d'autres gens. Excusez-moi de dire ça, mais aujourd'hui vous dites blanc, les gens sont d'accord avec vous. Du moins dans mon environnement. Demain je dis noir, ils sont d'accord aussi. Il ne faut pas faire de vagues. Hein? Ça c'est profondément déprimant. Ouais, non, mais c'est pas des blagues. Hein? Et d'un autre côté, moi, à force d'observer, je pense que la municipalité, je m'excuse de le dire, mais probablement de le faire, elle veut récupérer toujours des impôts supplémentaires parce que toujours en train de courir après le fric.
Il n'y a plus d'hirondelles, il n'y a plus de grenouilles, il n'y a plus d'hérissons, il n'y a plus d'abeilles, mais il faut commencer à voir par là. Hein.
Bien sûr. Ouais. Les réparations qu'on fait sur le toit de l'église, je suis intervenu pour les nids d'hirondelles, bon, bah, on m'a pris pour un rigolo. Alors que les nids d'hirondelles, à mon avis, sont plus importants que l'église, mais c'est moi qui s'en regarde.
Ah ouais, non, mais si vous
êtes en. Non, non, ça regarde que moi. Ça n'engage que moi.
En fait, les villes en transition, là, puisque c'était là-dessus, les villes en transition, il y a quelques exemples de grandes villes en France qui ont décidé de peut-être prévoir un petit peu avant terme le plateau d'extraction des énergies fossiles et même leur décroissance. Donc ça, c'est peut-être bien, mais en même temps, c'est sûrement à peu près les mêmes qui ont prévu que c'était bien de faire l'exploitation des gaz de schiste. Alors là aussi, c'est un problème. Hein. On a quand même un gouvernement et un État en France, et cet État n'a jamais lancé la réflexion sur les énergies. Or, les villes en transition, c'est essentiellement sur cette réflexion sur les énergies qu'il faut commencer à avoir pour pouvoir rentrer en transition, faire quelque chose de
bien équilibré. Et le faire de manière harmonieuse,
solidaire, en contact avec la population. En contact avec la population, ce qui n'est pas fait, entre autres, dans les grandes villes françaises, puisqu'il y a des grandes villes françaises, j'ai eu. Il doit y avoir Paris, Nantes, Grenoble en ville en transition. Il y en a peut-être d'autres. Strasbourg, je crois aussi. Donc, qui se déclare ville en transition.
Dans lesquelles il y a un groupe qui réfléchit. Les derniers échos que j'ai de Grenoble en transition, pour l'instant, c'est en frémissement de transition.
Ah ouais. Mais bon, j'avais tapé transition et j'avais trouvé ça.
Ça sort Grenoble.
Voilà.
C'est pas la ville officielle.
La municipalité.
C'est des gens dans cette ville.
Des groupes.
Il faut bien faire la part des choses. D'accord. Là-dessus. Après, juste pour terminer avec les différentes choses, pour ne pas rester sur la terre, il y a finance et économie, où il y a tout ce qui est AMAP, le bénévolat dans les fermes bio, donc le WOUF, les analyses de cycle de vie d'objets, tout ça. Il y a l'investissement éthique, enfin,
les monnaies,
l'autoconstruction, évidemment, en bâtiment. Là, c'est très vaste. Et toutes ces choses, on peut vraiment les concevoir d'un point de vue soin de la terre, soin les uns des autres, avec beaucoup de bon sens et à réduire notre dépendance à des ressources finies.
Donc, on va commencer par instruire aussi l'utilisation des produits ménagers déjà. Il faut que tout soit propre et la javelle partout. Voilà. Attendez, oui, on va commencer par instruire par là.
Quand c'est pas les produits,
il y a tellement de différents sujets sur lesquels je pense que beaucoup de gens ici travaillent et qu'en se disant que c'est de ça, ça se regroupe dans ce souci d'écologie et de coopération, on peut peut-être recouper aussi nos différents efforts. Question, on continue ou on s'arrête là? Comment vous sentez? Je pense que
on peut constituer des petits groupes. Le bar est toujours là et puis Lilia est toujours là aussi. Il y a les livres ici. Vous pouvez venir voir aussi sur les bouquins. Voilà. Donc le prochain jeudi, je vous le signale, c'est donc jeudi 24 février. Nous n'avons pas encore défini le lieu, mais ça sera sûrement plus central, peut-être à l'Arsenic.